Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Gros plan maintenant sur la CNIL avec notre invité Bertrand Payès qui nous a rejoint. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle qui déboule comme ça, comme un tsunami avec évidemment ChatGPT, mais aussi tous ces géants américains qui s'emparent de cette technologie. Et rappelons que vous êtes là pour protéger les citoyens français de leur vie privée, que voilà, Internet ne commence pas à déborder, à partir un petit peu dans tous les sens. Peut-être avant de rentrer dans le détail de votre plan d'action concernant l'IA, mais rappelez les missions de la CNIL, qui est un peu le gendarme de l'Internet en quelque sorte. C'est ça ?
Alors, tout à fait. L'article 1er de la loi Informatique et Liberté, c'est l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Donc, nous, c'est un peu notre mission de faire en sorte qu'on ait un numérique, une informatique. Alors, à l'époque, on parlait d'informatique, maintenant de numérique et d'Internet, qui viennent vraiment, vraiment au service et qui ne vient pas atteindre, notamment, à ses libertés. C'est le L de CNIL qui le rappelle.
Oui.
On a plusieurs missions. On est souvent connu pour cette fonction de gendarme, parce qu'on peut sanctionner. Depuis le RGPD en 2018, on peut sanctionner des amendes assez élevées. Mais on a aussi
le cas de Doctissimo il n'y a pas longtemps. Hein,
on a eu le cas de Doctissimo il y a
plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende.
Exactement. On a eu le cas, alors notre homologue irlandais avec qui on travaille a sanctionné Meta de 1,2 milliard d'euros
ah oui,
là, il n'y a pas très longtemps non plus, ouais. sur la même base. Mais on a aussi un rôle d'information, on a vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire de répondre à leurs questions. Donc on reçoit des plaintes, on reçoit des demandes d'information, et puis on a un rôle de conseil aussi pour les entreprises, d'accompagner ce qu'on appelle l'accompagnement, où on essaye de justement, et c'est le cas avec l'intelligence artificielle, on essaye d'expliquer comment la protection des données, la protection des libertés fondamentales doit se combiner avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux produits, des nouveaux usages.
Voilà, la CNIL, c'est à la fois informer, réguler, protéger, contrôler, sanctionner et anticiper.
Tout à fait.
Voilà, vous avez un peu de boulot quand même.
C'est ça.
Donc au-delà de tout ce sujet du numérique, quand on focus évidemment sur l'intelligence artificielle, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, parce que justement vous vous emparez de ce sujet, de ce secteur, avec votre plan d'action qui s'articule autour de 4 volets, je crois.
Oui, tout à fait. Donc 4 volets. Le premier, c'est justement anticiper et appréhender, c'est essayer de comprendre en fait ce qui se passe, comprendre ces technologies. Là, récemment, on a sorti un dossier sur les intelligences artificielles génératives. Donc, on parle beaucoup de ChatGPT. Il y a aussi d'autres produits. Comment ça fonctionne techniquement, c'est important pour nous d'être capable de le faire pour pouvoir ensuite justement construire la régulation qui fonctionne bien. Ensuite, on va essayer de répondre à des questions de droit et de conformité.
Mm-hmm.
Concrètement, la question qu'on se pose, qu'une partie des gens nous posent, c'est est-ce que mes données sont utilisées pour entraîner, comme on dit, ces intelligences artificielles? Est-ce que j'ai des droits? Est-ce que je peux m'opposer? Est-ce que je peux rectifier? Dans le cas des IA génératives, vous l'avez vu, elles inventent parfois des choses. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème?
On s'en souvient. Je vous coupe parce que ce qui s'est passé en Italie est assez intéressant. Pendant un moment, et peut-être que vous pourrez commenter ça, hein, l'Italie a coupé les vivres, a coupé le cordon de ChatGPT. ChatGPT était interdit d'utilisation en Italie. Ça n'a pas duré très longtemps, mais malgré tout, il y a eu ce symbole.
Alors,
parce que non pas par rapport à l'IA et à la peur de l'intelligence, on va dire conversationnelle, mais c'était parce que il y avait un vide concernant les données privées qui étaient récoltées dans ChatGPT.
Exactement. Sur ChatGPT, notre homologue italien, donc qui est vraiment la CNIL,
ouais,
italienne, a effectivement dit. Il y a un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il y avait plusieurs problèmes avec ChatGPT. Il y avait notamment le fait qu'il y avait un manque d'informations sur comment les données... Est-ce qu'il y avait des données personnelles dans le système et comment les gens pouvaient finalement interagir avec OpenAI pour savoir, s'opposer, éventuellement rectifier des erreurs. Et donc, ils ont une approche assez audacieuse, objectivement plus... Enfin, on ne pensait pas qu'il fallait procéder comme ça. Nous, on avait plutôt prévu de justement prendre un peu de temps pour réfléchir.
Ça a été violent.
OpenAI a répondu assez vite, donc ce qui a montré en tout cas un souhait aussi de ces entreprises de respecter
de transparence
et de respecter la réglementation.
Vous avez hésité à un moment, vous aussi, d'interdire ChatGPT ou pas, sincèrement?
Non, la question s'est pas trop posée pour deux raisons. D'une part, on n'a pas eu de plainte. Nous c'est un de nos indicateurs, c'est est-ce que les gens sont vraiment mal à l'aise avec ce système. ChatGPT, la croissance a été énorme. Il y a probablement plusieurs millions de Français qui l'utilisent. Et puis, on n'a personne qui nous a signalé. On a d'autres systèmes, on est beaucoup plus vigilants. d'IA. J'étais venu en parler sur l'IA pour les Jeux Olympiques, où là, c'est vraiment les caméras pour les forces de l'ordre.
Reconnaissance faciale, etc., où là, tout est très réglementé.
Exactement. Ou l'IA pour la lutte contre la fraude, par exemple, sur les allocations familiales, où il y a des gens qui viennent nous dire, est-ce que allez vérifier. Sur ChatGPT, on n'avait pas eu de plainte, et donc nous, on était plutôt à essayer de construire un dialogue avec les acteurs économiques pour dire comment on gère la conformité. Depuis, on a eu des plaintes, on va les instruire. Et donc on est rentré dans un dialogue avec OpenAI pour justement voir quelles sont les mesures, est-ce que c'est les mêmes qu'en Italie ou d'autres qui vont proposer pour protéger les utilisateurs français.
Donc appréhender l'IA, permettre aussi et encadrer le développement d'IA respectueuse de la vie privée.
C'est ça.
Donc c'est ce que vous évoquiez un petit peu là.
C'est exactement ça. Donc c'est vraiment notamment des questions sur l'information et les droits. Nous, c'est vraiment la spécificité de notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens soient au courant de ce qui se passe et qu'ils puissent dire je ne veux pas, je veux que vous corrigiez mes données, je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour telle ou telle finalité. C'est vraiment le cœur de notre travail. C'est pas toujours le point auquel les gens qui développent l'IA pensent en premier, parce qu'ils traitent des données, ils essayent d'optimiser leur modèle. Et donc nous, on est là pour leur rappeler ces éléments-là. Et puis on va essayer vraiment aussi d'accompagner l'adoption de ces systèmes, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, pour que ça ne se fasse pas au détriment des personnes.
C'est-à-dire essayer d'avoir de la pédagogie sur l'utilisation de cette IA, c'est ça ?
Alors nous, ça va être de la pédagogie sur l'utilisation, essayer de faire attention, par exemple l'utilisation d'IA dans des secteurs médicaux par exemple, ou dans justement par les forces de l'ordre, évidemment on y fait beaucoup plus attention, donc là on va essayer de regarder ça avec plus d'attention. Et puis c'est essayer aussi de mieux comprendre et de préparer peut-être de nouvelles obligations. Ça rejoint un des autres axes qui était la partie être capable d'auditer, de contrôler. On anticipe qu'avec le règlement IA qui va arriver dans les prochaines années, il va falloir en fait exiger de nouveaux éléments de la part des fournisseurs de solutions qui documentent, qui expliquent comment ils ont fait, comment ils ont traité les biais, comment ils ont traité les erreurs. Et donc c'est un peu ça qu'on essaye de préparer aussi pour dans le périmètre du droit actuel.
Ça va être un peu chaud là, hein, parce qu'entre le G7 qui veut réguler l'IA, l'encadrer, l'IA Act qui lui est plutôt, on va dire, d'envergure européenne, l'Union Européenne et les États-Unis qui annoncent un projet de code de conduite commun sur l'intelligence artificielle, waouh, vous allez être obligé de prendre en considération en fait toutes ces décisions, non ?
Exact, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un service dédié sur l'IA. On va avoir une petite équipe qui va travailler que sur ça.
Cinq personnes, c'est
ça ? Cinq personnes pour commencer en 2023. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'être dans le rythme et d'essayer de nouer un dialogue aussi avec à la fois les chercheurs, les entreprises, en tenant compte de ces accords internationaux, mais aussi des spécificités européennes, parce que finalement, les règles de protection des données, elles sont vraiment très spécifiques à l'Europe. Les entreprises américaines n'y sont pas directement confrontées, les chinoises encore moins. Et à l'inverse, les entreprises, les petites start-up européennes qui démarrent là dans l'IA, nous, on veut vraiment les aider. On a lancé un programme qu'on a appelé d'accompagnement renforcé, où on va vraiment accompagner trois entreprises, je ne sais pas si je peux citer les noms,
bien sûr,
qui sont Lifeon, Hugging Face et Content Square, trois scale-up en fait, pour s'assurer que ils protègent bien les données et qu'ils sont dans le bon tempo et qu'en même temps ils en font un avantage peut-être concurrentiel à la fin.
Et c'est vous qui allez diriger cette cellule en fait, hein, d'après ce que j'ai compris.
Alors tout à fait, ce sera une cellule qui sera dans ma direction.
Dans ma direction.
Félicien Vallée sera le chef de cette.
Bertrand, est-ce que au quotidien la CNIL utilise l'IA pour défendre les internautes, pour justement prendre des décisions peut-être plus rapides? Est-ce que vous l'utilisez ou pas?
Alors aujourd'hui, objectivement, pas beaucoup. Paradoxalement, on est une autorité de régulation des données, mais on n'est pas l'autorité. On fait quand même très attention. On a quand même un devoir d'exemplarité.
Mais vous pourriez avoir votre IA personnelle, en quelque sorte, dans un silo qui n'appartiendrait qu'à vous.
Oui, tout à fait. On regarde des projets, alors qui sont aujourd'hui plutôt expérimentaux. Des projets que ce soit vraiment d'analyse de texte. Nous, on travaille beaucoup sur le texte, puisqu'on produit du texte, on lit du texte, on lit des rapports. Donc, effectivement, comment on peut analyser automatiquement peut-être des saisines qui viennent nous peut-être résumer des choses. On s'intéresse aussi à des aspects de de classification, par exemple, on reçoit beaucoup de plaintes, donc des choses qui nous permettraient de classer. Aujourd'hui, c'est vraiment très expérimental, mais on regarde notamment sur les LLM, là, les modèles de langage. Comme tout le monde, on a envie d'essayer ça. Aujourd'hui, c'est objectivement compliqué D'accord. d'utiliser les services dans le web.
Mais voilà, pas de tabou pour utiliser une IA que vous maîtriseriez, en quelque sorte.
On Exactement. Donc, voilà. On va regarder notamment les modèles qui permettent de le mettre complètement sous notre maîtrise. Ça nous intéresse. Par
Bertrand, dernière petite question concernant un autre sujet d'actualité. C'est ce projet de fusion, la carte vitale et la carte d'identité. Alors, qui n'est pas... Enfin voilà, on met ça sur la table, c'est pas pour trop de suite, à mon avis, hein, ça prend toujours du temps, cette histoire-là. Mais bon, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est là aussi, qui rentre dans le cadre d'un plan de lutte contre la fraude fiscale. Hein. Vous mettez en garde, malgré tout, justement les autorités concernant cette fusion. Pourquoi ?
Oui, alors nous, on est très attentifs au fait de séparer ce qu'on a appelé des sphères, donc qu'il n'y ait pas un grand fichier qui permette de savoir l'état civil, toute la vie médicale de la personne, ses relations avec les forces de l'ordre, l'éducation, etc., etc. On pense que une des raisons pour laquelle la CNIL a été créée, c'est vraiment de maintenir une séparation entre ces mondes-là et de permettre aux gens d'exercer leur relation avec l'administration de manière un peu segmentée, c'est un élément important. Mmh. Plusieurs scénarios ont été envisagés. Un scénario nous a semblé pouvoir être étudié.
C'est le numéro de sécu qui arriverait dans la puce de la nouvelle carte d'identité, c'est ça ? Parce
Exactement.
Qu'aujourd'hui, il n'y est pas.
Alors, aujourd'hui, dans la puce de la carte d'identité, il n'y a que les informations de la
c'est
carte d'identité.
Donc mais là, on rajouterait notre numéro de sécurité sociale.
C'est ça. Et ce composant technique, il est très protégé d'un point de vue cryptographique. Oui. Donc, nous, il a des bonnes propriétés. Et notamment, une des conditions qui nous semblera intéressante, c'est que ce numéro ne soit pas lisible, en fait, en direct, mais soit lisible uniquement par des professionnels de santé. Ce qui permettrait d'éviter, effectivement, qu'une personne qui n'a rien à voir avec le monde de la santé commence à accéder à votre numéro de sécu. Donc, c'est des architectures possibles. Et c'est des choses qui peuvent être regardées. Il faut aussi démontrer que ça a vraiment un effet sur la fraude sociale comme l'envisage le gouvernement et que ça permet de résoudre des problèmes
oui, bien
de
sûr.
Manière réelle.
En effet. Bon, on va suivre ça de près. On en est qu'au tout début à la gestation, en fait, de ce projet de fusion de la carte d'identité et de la carte vitale. Merci beaucoup, Bertrand Payès.
Merci.
Voilà, vous avez un peu de pain sur la planche.